vous avez les questions, il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Le printemps est arrivé, même si on l'a vu, attention au vent d'est taquin, aux températures qui jouent avec les yo-yos. Mais il y a quand même, pour le jardinier, quantité de choses à faire. Les journées sont plus longues, donc on s'occupe de plus en plus de son jardin. Bonjour Philippe.
Bonjour Daniel, bonjour à tous.
Donc pas mal d'occupations au jardin.
Oui, en fait, il faut être à la fois efficace à l'intérieur et à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, faut s'occuper des plants de tomates, des plants d'aubergines, des plants de poivrons, et puis à l'extérieur, faut commencer à préparer le sol, il faut planter des patates, un petit voile quand même, un petit P17, comme on dit, pour les garder au chaud, et puis on peut semer plein de choses, on peut semer des choux, on peut semer des radis, on peut commencer à semer les carottes, un petit peu tôt encore, c'est sur côtière, bien exposée, c'est tout, des petites carottes à forcer, les petites carottes style Halle de Paris, elles sont toutes petites, elles font quoi, 5, 6, 7 cm maxi, elles sont toutes rondes et elles sont délicieuses, des vrais petits bonbons, absolument, on en mangerait. Vous voyez, il y a plein de choses à faire, et puis en même temps, c'est le mois de mars, donc il faut tailler, et donc faites attention, affûtez bien le sécateur, désinfectez-le bien, et puis mettez un petit peu de pommade sur vos poignets pour pas avoir de tendinite, ou pour pas avoir de syndrome quartier bien, parce que ça arrive des fois.
Et oui, quand on a un grand jardin, qu'on a pas mal de taille à faire, les petits conseils. Allez, on va tout de suite accueillir vos questions au 02 99 67 35 35.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et on part au nord de Rennes pour cette première question à Dinger exactement avec Janine. Bonjour Janine.
Bonjour monsieur.
Janine, qu'est-ce qui vous arrive?
Alors, il m'arrive que j'ai deux sampolias qui poussent très très bien en feuilles, mais qui ne fleurissent pas.
D'accord, tout en feuilles et pas de fleurs. Ils refusent.
Oui.
Ah là 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 là, les méchants.
Qu'est-ce alors, qu'il faut leur faire?
Le sampolia, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la violette du Cap. C'est une très jolie plante originaire d'Afrique du Sud, forcément. Et c'est une plante de sous-bois, donc il faut bien faire attention à ne jamais lui mettre de soleil direct. Et puis,
non,
c'est donc,
ils sont dans la maison.
Voilà, c'est très bien. Mais même dans la maison, il faut faire attention, parce que si vous les mettez devant la fenêtre et qu'il y a un coup de soleil dessus...
Non, ils sont dans une fenêtre
très bien, super, vous avez bien placé, mais je dis aussi pour les autres. Et puis pour les faire fleurir, c'est toujours le truc classique. On aime sa plante, on lui donne bien à boire, on la met bien au même endroit tous les jours, on lui donne la même température, le même dose d'engrais, elle fait pas de fleurs. Pourquoi? Parce que c'est une plante tropicale et que sous les tropiques, il y a deux périodes, il y a la période sèche et la période humide. Et on répète simplement la période humide, on oublie la période sèche. Donc si vous voulez le faire refleurir, il faut le mettre au sec pendant il faut au moins 4 à 5 semaines pour que le choc soit suffisamment. Donc vous arrêtez d'arroser. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut le faire crever de soi, ça veut dire qu'il faut l'arroser beaucoup, beaucoup moins. Donc si vous arrosez une fois tous les 3 jours, il faudra commencer par arroser une fois par semaine. Et puis si vous pouvez vous diminuer à une fois tous les 10 jours, puis si vous pouvez vous diminuer à une fois toutes les 3 semaines, en général 3 semaines c'est... largement suffisant. Et pendant cette période-là, pas d'engrais évidemment, une température un petit peu plus fraîche si possible, on peut descendre jusqu'à 12-13 degrés sans aucun problème, et ce choc que provoque cette mise au sec, va provoquer aussi ce qu'on appelle l'induction florale, ça va déclencher la floraison. Donc dès que vous allez remettre la plante dans des conditions idéal, c'est-à-dire aux alentours de 18-20 degrés, avec sa petite lumière tamisée du nord, avec son petit arrosage tous les 3-4 jours, etc. Dans les semaines qui viennent, mais là ça va très très vite pour le sympolia, c'est de l'ordre de 10-15 jours, on va voir déjà apparaître une belle rosette de petites nouvelles feuilles, et puis au cœur de la rosette un bouquet de fleurs, voire deux, voire trois, et c'est reparti. Et à chaque fois que vous voulez le faire refleurir, vous lui faites un petit coup de sec, comme ça il croit que c'est la période sèche qui est arrivée, il fait sa fleur et vous le remettez au chaud et il est reparti.
Et voilà la solution, Janine, toute simple en fait. Donc essayez, comme on dira, essayez, c'est adopter bien sûr. Fabienne est à Merdrignac, bonjour. Fabienne?
Allô? Fabienne.
C'est qui?
C'est Jacqueline.
Oui. Ah bah, on avait envie de vous rebaptiser ce matin, oui. Fabienne. Oui. Bonjour Jacqueline.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Merdrignac et, oui. et vous avez des problèmes avec quoi?
Avec des kiwis.
Des kiwis, d'accord. C'est des quinons en fait.
J'ai un pied auto-fertilisant, un pied mâle et un pied femelle.
Ouais.
Ils fleurissent superbement bien et la fleur s'épanouit et tombe, il ne me reste plus que les tiges.
D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe?
Ben oui,
c'est quoi
savoir.
C'est quoi le problème du départ du commencement de la chose?
Oui.
Alors là, je ne vois guère qu'une solution, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. C'est un problème d'arrosage ou de nutrition. Parce que s'il y a un auto-fertile, plus un mâle, plus un femelle, okay. normalement, même s'ils ne sont pas très compatibles entre eux, il devrait toujours y avoir un petit peu de fécondation. Donc s'il n'y a pas de fécondation du tout, si les fleurs n'arrivent pas à faire des fruits, c'est que soit il n'y a pas de fleurs mâles ou fleurs femelles, mais ça m'étonnerait quand même sur cet ensemble-là, soit qu'il y a un problème de nutrition ou d'arrosage, sachant que le kiwi déteste la sécheresse, hein, il faut toujours qu'il ait pied au frais, ça c'est très très important, donc il faut vraiment bien vérifier qu'il a le pied au frais, il faut dès maintenant mettre un bon gros paillage, alors normalement à l'automne on récupère toutes les grosses feuilles, on les met au pied justement des kiwis pour faire un paillage, ensuite normalement au cœur de l'hiver on lui met une bonne grosse quantité de feuilles mortes pour refaire un paillage, et à la saison à laquelle on est maintenant, on peut ajouter un peu, et je dis bien un peu de tonte de gazon séché, fané, hein, donc on tond quand il fait beau, il y a déjà quelques jours de beau, donc on tond en fin de matinée, on laisse faner toute l'après-midi, le soir on récupère et on va mettre au pied des kiwis, mais mélanger avec donc les feuilles mortes qui restent, et en faisant attention que tout ça soit bien frais, ça c'est très 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 important. Vous pouvez éventuellement à cette saison-ci aussi, non, il n'a pas encore fleuri, donc on attend encore un petit peu. Vous pourrez faire après la floraison, juste après la floraison, un petit apport de purin d'ortie. Je dis bien un petit apport de purin d'ortie. Donc on met un litre de purin d'ortie dans 9 litres d'eau et on met un demi arrosoir par pied, c'est-à-dire 5 litres par pied. Hein, ça fait pas mal. Et puis quand ils seront en fleurs, faites-moi des photos des trois et puis envoyez-les-moi parce que j'ai un doute quand même.
Voilà, donc peut-être qu'il y a autre chose. Bon, en tout cas, essayez ça, Fabienne. Merci pour votre question. On rappelle que il suffit de taper France Bleu Armorique Jardin Bleu, et puis vous avez une petite enveloppe en bas, et vous cliquez sur l'enveloppe, et c'est un mail qui arrive directement à Philippe. Il peut recevoir ainsi vos photos, vos questions, vos problèmes. C'est Colette, hein, non ? Oui, c'est ça, c'est Colette qui est avec nous, à la Chapelle Janson. Bonjour.
Oui, bonjour tous les deux. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, j'ai des orchidées et les tiges qui montent, elles sont toutes sèches. Est-ce que je peux les couper, s'il vous plaît?
Alors. Bah oui, quand elles sont sèches, oui. Oui, il n'y a pas, de question à se poser. Dès que c'est sec, dès que c'est mort, on enlève. Hein, donc voilà, il n'y a pas là-dessus, pas de souci. Par contre, toujours pareil, le petit sécateur d'intérieur ou la paire de ciseaux, il faut qu'elle soit bien affûtée, bien désinfectée.
Voilà, pour ne pas propager, bien sûr, d'autres virus qui sont sur d'autres plantes, on ne sait jamais. Colette, merci pour cette question. Vous voyez, vous avez bien fait d'appeler. On fait une pause en musique et puis on retrouvera Raymonde avec son laurier rose. Catherine qui est envahie par le millepertuis, puis Joël qui a des christophines et qui voudrait savoir comment les planter. En attendant, c'est Stéphane Escher sur France Bleu Armorique avec pas d'amis comme toi. Bah si, on a plein d'amis nous. Vous êtes nos amis sur France Bleu Armorique. Il est 9h19.
Quand tu traverses la pièce, en silence que tu passes devant moi, je regarde tes champs, la lumière tombant sur tes cheveux. Quand tu t'approches de moi, ton parfum me fait baisser les yeux. Et si tu touches mes mains, je m'arrange pour ne pas s'y penser. Je n'ai pas la
D'amis comme toi, Stéphane Asher, très bon dimanche avec nous sur France Bleu Armorique. On accueille vos questions jardin.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et beaucoup de monde, beaucoup de questions et donc beaucoup de réponses de Philippe Munier ce dimanche. Raymonde à Josselin dans le Morbihan, bonjour.
Oui, bonjour.
Raymonde, un laurier rose. C'est joli le laurier rose. Hein.
Allô?
Oui, bah, je vous écoute. Qu'est-ce
oui,
qu'il a votre
alors,
laurier?
J'ai mis un voile tout l'hiver,
ouais.
Parce qu'il est bien exposé contre un mur,
ouais.
Bien ensoleillé. Bon, là, on vient d'enlever le voile. Hein. Alors, je voulais savoir si je pouvais couper un petit peu le haut du laurier.
Est-ce que c'est la période,
oui, c'est,
déjà, ouais.
C'est même pas un petit peu le haut, c'est le laurier rose, il faut le tailler relativement sévère, parce qu'il va fleurir sur le jeune bois qui va démarrer après la taille, donc
d'accord.
Il faut vraiment l'inciter à faire pas mal de bois. Alors je dis pas qu'il faut le ratiboiser, hein. Faut non. Faire attention, faut prendre la chose avec mesure, donc une taille relativement sévère, mais pas le ratiboiser non plus. Et surtout, juste après la taille, eh bien, on lui fait un bon apport d'un bon compost bien décomposé, hein, très important, bien décomposé, et puis on fait attention à bien l'arroser au démarrage de végétation. Un laurier rose, on l'arrose régulièrement, alors s'il est en pleine terre, évidemment, il faut faire attention s'il pleut,
non, c'est il pas est dans d'arroser. Un pot. Il est dans un pot.
Dans un pot, d'accord. Donc, il faut bien l'arroser jusqu'à peu près la mi-juin, fin juin, et après, régime sec. Et c'est dans ces conditions-là qu'il va développer une belle floraison. Hein. Il faut
voilà.
Très, très peu l'arroser pendant l'été.
Voilà, régime sec.
Merci
Raymonde.
Bon dimanche.
Philippe, je trouve que vous mettez tout le monde au régime sec ce matin. Je sais pas, va peut-être s'hydrater un peu quand même.
Ouais, mais c'est pas, ça met une petite dose. Voilà.
Ouais, mais c'est vrai que pour fleurir, faut faire souffrir. Et oui, c'est ça la vie.
Ouais.
Nous allons à Rennes avec Catherine qui est avec nous. Bonjour Catherine.
Bonjour Daniel.
Catherine, qu'est-ce qui vous arrive?
Mais merci de m'accueillir sur l'antenne déjà.
Ouais.
Donc voilà, je suis envahie par le millepertuis.
Ouais.
Donc je peux pas un peu rien faire pousser d'autre parce que ça envahit tout le jardin. Et donc j'ai réussi à arracher une grosse partie du millepertuis, mais il me reste encore plein de racines dans la terre. Donc j'aimerais savoir quelle est la solution que je peux envisager pour supprimer ces racines, mais sans une solution naturelle, en fait.
D'accord.
Je ne voudrais pas de trucs chimiques.
Voilà, parce que le mien,
nous, on n'en parle pas, nous, des trucs chimiques.
On n'aime pas ça. On n'aime pas ça.
Voilà. C'est pas moi à bannir du jardin.
Voilà, absolument. La chimie et le jardin, c'est deux choses complètement antagonistes.
Exactement.
Donc, dites-moi tout, le millepertuis qui vous envahit, c'est du millepertuis sauvage ou c'est du millepertuis en arbuste qui sert
non,
à faire
c'est
des...
Sorti, voilà, c'est sorti tout seul. J'en avais déjà chez là. Il y en avait déjà chez ma voisine. Et comme on est mitoyen, et ben le c'est soit le vent, soit les oiseaux qui ont fait que ça,
ça se propage.
C'est sorti chez moi et ça se propage. Donc c'est dommage parce que ça fait des très jolies fleurs jaunes. Mais le problème, c'est que ça prend une place incommensurable et je peux rien mettre d'autre.
Ouais, alors. Est-ce qu'il y a un problème de terre, de quoi de...
Alors, il y a forcément, s'il y a multiplication des huiles pertuis, alors, malheureusement, je ne connais pas toutes les plantes par cœur, j'aimerais bien, mais non, pas toutes, parce que, en fait, chaque plante, lorsqu'elle pousse, lorsqu'elle devient envahissante, elle indique quelque chose de ce qui se passe dans le sol. Elle ne se développe pas par hasard, si elle se développe, c'est parce que le sol a des caractéristiques spécifiques à ce moment-là pour X raisons. Et pour le millepertuis, je ne sais pas. Il y a trois gros bouquins écrits par un monsieur qui s'appelle Gérard Dussert, qui s'appelle Les plantes bio-inducatrices. Et justement, ce bouquin-là vous dit que s'il y a du millepertuis qui envahit, c'est à cause de ceci, ceci, cela. Malheureusement, je ne les ai pas sous les yeux. Mais d'ici la fin de l'émission, je pense que j'irai faire un petit tour de manière à regarder à quoi c'est dû. Par contre, de toute façon, quoi qu'il arrive, le millepertuis, c'est une plante que je connais bien, que j'aime beaucoup. C'est une plante médicinale. Donc, utilisez-la pour faire de l'huile rouge, qui est un très bon produit pour la peau, particulièrement contre les brûlures et les coups de soleil. Ramassez-en, c'est au niveau de la Saint-Jean que ça se cueille. On l'appelle d'ailleurs le cierge de Saint-Jean, si ma mémoire est bonne. Quand on a des plantes comme ça qui deviennent envahissantes, il faut travailler avec un outil style fourche à bêcher ou grelinette, ou les outils à dents bio-bêche et compagnie, simplement pour décompacter le sol et à ce moment-là, vous allez tirer dessus et toutes les racines vont venir. Ça va vous empêcher de garder toutes les racines. Vous disiez que c'était les racines qui vous embêtaient. C'est parce qu'il faut d'abord décompacter le sol avec un outil à dents. Pour bien, vous faites comme ce sont les... Je pense particulièrement au bio-bêche, où il y a deux manches, ou alors c'est un guidon qu'on attrape à deux mains, donc on est deux fois plus fort. Donc ça vous permet de bien faire levier et de décompacter le sol. Et à ce moment-là, vous pouvez enlever la plante et les racines. Et vous n'êtes pas obligé d'enlever partout. Enlever là où vous voulez faire pousser d'autres choses, là où il se développe bien et vous enquiquine pas, laissez-le se développer, c'est pas un problème. Et donc ça, c'est une chose. Et puis, d'ici la fin de l'émission, je vous en dirai un petit peu plus.
Donc Catherine, vous restez à l'écoute et puis avant 10h, en allant consulter sa boule magique, sa boule de cristal, on va savoir peut-être que la Terre, il y a trop de ci ou pas assez de ça. Ça peut être ça, en fait. Voilà.
Ça peut être quelque chose comme ça, ouais.
Bon, à tout à l'heure. Merci Catherine, bonne journée. Christian est à Rennes. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Alors, vous avez une question par rapport aux copeaux de bois, c'est ça?
Oui, c'est ça. J'ai reçu des copeaux de bois qui est broyé, quoi, qui est gros comme le pouce, et, enfin tout ça, il y a plein, tout ça est mélangé. Je voulais savoir si on peut en mettre autour des arbustes et puis de. Comme genre de pêcher, parce qu'on a pas mal de pêcher, de framboisier et tout ça, si on peut en mettre au pied.
D'accord.
Si c'est pas nocif.
Alors en fait, le copeau de bois, il faut faire très attention, surtout à cette période-ci, parce que le bois, c'est donc très riche en carbone et c'est très pauvre en azote. Dès qu'on met du bois sur le sol, les champignons du sol, immédiatement, cherchent à coloniser ce bois-là. Et pour se développer, ils ont besoin d'azote. Donc ils vont piquer l'azote de la plante qui est en dessous, donc les pêchers ou les framboisiers, pour pouvoir se développer et commencer à manger le bois, à le décomposer. Composé pour faire un bon humus. Mais pendant le moment, et après, ils vont restituer l'azote qu'ils ont embarqué. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, surtout maintenant où les plantes sont en démarrage complet, si on leur prend de l'azote, eh bien, tout d'un coup, elles dépérissent. C'est ce qu'on appelle, c'est un phénomène que connaissent bien les agriculteurs, un problème de faim d'azote. Donc la plante a faim, elle n'a plus assez d'azote, et souvent elle dépérit. Ça peut aller jusqu'à pour un petit arbuste ou pour des jeunes plants, par exemple d'artichaut, je cite ça. D'expérience, ça peut aller jusqu'à la mort de la plante. Donc il faut faire très attention à cette période-ci. Maintenant, je vous déconseille de mettre du copeau de bois. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est bien le garder, le stocker, le tourner régulièrement pour que justement le début de ce compostage commence à se faire et vous pourrez du coup l'apporter tranquillement au mois d'octobre, novembre, et là il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de problème de fin d'azote parce qu'on sera en fin de saison et ça permettra d'apporter de l'humus et de couvrir le sol et donc de limiter l'évaporation et donc d'empêcher les petites mauvaises herbes.
Eh ben voilà, donc Christian, vous avez bien fait de poser cette question, parce qu'on aurait pu penser que voilà, on pouvait y aller tranquille. Il faut attendre, être patient. Merci, on retrouve dans un instant Gertrude, Florence, Irène, Paul. Enfin, vous êtes toute la Bretagne est là pour poser une question à Philippe Munier ce matin dans Jardin Bleu.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et Pascal Obispo sur France Bleu Armorique, on n'est pas seul sur la terre. Bah non, heureusement, on a nos plantes avec nous.
Départemental 106, c'est comme si c'était hier. Un mardi soir de février, sur un deux-roues en solitaire. Il roulait tranquille, heureux sur sa planète, quand soudain au loin réverbère. Dans les phares du break, filant sous les étoiles, jaillit un éclair. Ses mobilettes en vol plané, en mille morceaux de lui cassés avec la malle foutue en l'air et les projets, dans les débris et la poussière au ciel. On n'est pas seul sur la terre, me dit un jour l'homme de fer. Seul au monde, dans nos nuits vagabondes. Croix de bois, croix Lucifer. Si je m'en j'irai aussi en enfer. Même si on nous marche sur la tête, même si on nous envoie en l'air, on n'est pas seul. Départemental 106, c'était comme si à cet endroit précis, les terres sous les lumières jaunies retombaient là sur le sol. Quand la vie ne tient plus qu'à un fil, pas besoin d'être un messie, et savoir qu'il n'y avait plus grand chose à faire pour perdre aussi la parole. Dans le désordre et l'odeur d'essence, il prit l'homme sans bras dans ses bras, le déposa dans le fossé sans défense, en lui chuchotant ça ira, ça ira. On n'est pas seul sur la terre, me dit un jour l'homme de fer. On n'est pas seul au monde, dans nos nuits vagabondes. Et comme un animal se fait la malle, le chauffard s'est barré, c'était fatal, en portant avec lui les rêves et les envies d'un innocent dont il venait de voler la vie. On n'est pas seul sur la terre, me dit un jour l'homme de fer.
On n'est pas seul sur la terre. Pascal Obispo sur France Bleu Armorique. France Bleu.
Vous cherchez une idée de sortie ou vous voulez faire connaître la vôtre? Le Bon Réflexe, c'est le site internet de votre radio, francebleu.fr. À tout moment et partout, trouvez ou indiquez un concert, un loto, un vide-grenier, une expo, une rando, bref, une idée de sortie en vous connectant sur le site francebleu.fr. Vous cliquez sur loisirs et vous aurez toute la Bretagne au bout des doigts. L'agenda sortie de France Bleu Armorique, c'est avec vous sur francebleu.fr. France Bleu.
Bleu et le magazine Régal vous invitent à de beaux voyages culinaires à travers les régions françaises. Vous êtes en quête de goût et vous aimez cuisiner? Retrouvez dans Régal des recettes gourmandes et accessibles, inspirées des produits de saison. Et ce mois-ci dans Régal, l'événement Marseille-Provence 2019, l'année de la gastronomie en Provence. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
On va accueillir dans un instant Joël avec sa question de Christophine. Mais avant, Philippe, on va revenir sur la question de Catherine qui était envahie par le millepertuis, c'est ça?
Et
on va savoir peut-être pourquoi.
Eh ben oui, peut-être. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le caractère indicateur du millepertuis, c'est un engorgement des sols riches en matière organique, végétale, archaïque.
Donc, hein,
tout ça d'un coup d'un seul.
Donc trop riche, en fait, trop riche, c'est ça le terrain ?
Non, c'est pas exactement ça, parce qu'en fait, le gros problème, c'est qu'il y a eu, c'est un jardin qui a été très bien nourri à une période et qui l'est beaucoup moins maintenant. Donc, avec les pluies et le temps, les matières organiques qui avaient été mises sur le sol sont descendues. Alors, c'est ce qu'on appelle des matières organiques archaïques, parce qu'elles sont plus profondément dans le sol, donc moins facilement absorbables par les plantes. Et au-dessus, il y en a beaucoup moins. Et du coup, dans ces conditions-là, c'est effectivement des plantes style le millepertuis, il y en a plusieurs autres dans la famille, qui savent descendre chercher cette matière organique, mais beaucoup d'autres plantes ne savent pas. Donc c'est un jardin dont on le laisse un peu tomber tout doucement, donc voilà, c'est pas une bonne idée.
Alors faudrait donc peut-être retravailler la terre.
C'est ça, c'est pour ça que l'idéal, ce serait effectivement de repasser avec des outils style bio-bêche, des outils à dents, à juste travailler, décompacter le sol sans le retourner surtout, juste le décompacter, et puis peut-être planter une prairie fleurie, de manière à ce que, parce que quasiment toutes les plantes qui sont dans les compositions de prairie fleurie, surtout tout ce qui est sarrasin, moutarde ou facélie, sont des plantes qui descendent justement profondément et qui vont aller casser cette espèce de croûte de matière organique archaïque et faire remonter tout ça en surface. D'accord. Et ça va réaméliorer le sol.
Bon, et ben voilà pour l'explication. Catherine, elle va avoir du boulot. Voilà.
Attends au travail.
Merci en tout cas pour cette réponse. Joël qui attend impatiemment à Saint-Malo. Bonjour Joël.
Oui, bonjour tous les deux.
Alors, vos Christophines, enfin, vous ne les avez pas encore.
On m'a donné deux Christophines.
Ouais.
On m'a dit, tu les plantes, ça pousse tout seul. Bon, enfin, j'aimerais en savoir un peu plus. Je ne sais pas s'il faut de la place.
Juste en les regardant.
De la terre, un pot, du compost, enfin, je ne sais pas.
Bon, alors, c'est bon, hein, les gratins de Christophines.
C'est délicieux.
On les mangeait, oui.
Donc la Christophine, c'est d'une part, c'est une plante tropicale, d'accord?
Oui.
Donc elle a besoin de chaleur. Donc soit je me souviens plus de la commune, mais
Saint-Malo.
Alors bon, côte nord, j'en sais quelque chose. La Christophine, elle préfère quand même, si elle peut être donnée. Produire dehors. Par contre, si vous voulez avoir des belles productions, mettez-la plutôt dans un tunnel ou une serre. Hein, ça, c'est première chose, parce qu'elle aime bien la chaleur. Deuxième chose, c'est une courge. Donc, elle aime bien avoir à manger, parce que toutes les courges sont des grosses gourmandes. Donc, un bon compost, vous parlez de compost, un bon compost bien décomposé, c'est idéal. Troisième chose, c'est une plante dite vivipare. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut surtout pas chercher chercher le noyau qui est à l'intérieur, hein, parce que c'est une courge, mais qui n'a qu'une seule graine, donc ça fait comme un gros noyau à l'intérieur. C'est la totalité de la Christophine que l'on va planter pointe vers le haut. Alors soit vous la démarrez maintenant, c'est-à-dire que vous la mettez à la maison devant la baie vitrée, vous plantez la moitié à peu près de la plante dans un pot, et puis vous laissez l'autre moitié à l'extérieur, et vous allez voir arriver une liane, parce que c'est une plante grimpante, hein, et c'est une liane qui peut être assez puissante. Hein. Donc dès que vous voyez arriver le germe, normalement on arrive tranquillement vers la mi-mai si vous la plantez maintenant. Et là vous pouvez la mettre soit en pleine terre bien protégée, soit dans un tunnel, en mettant un support pour que la liane puisse se développer. Et si tout va bien, suivant l'endroit où vous l'avez mis, si vous la mettez à l'extérieur, normalement, vous pouvez avoir une bonne trentaine de Christophines cette année. Si vous la mettez dans le tunnel, vous pouvez monter à 50 ou 60, sachant que dans le tunnel, souvent, elle passe l'hiver sans problème. Donc l'année suivante, c'est plutôt 150. Et après, ça devient un petit peu casse-pied.
C'est-à-dire qu'après, ça devient une production de Christophines, et elle va faire les marchés avec Joël. Bon, ben voilà pour les explications. explications. Et puis, bah voilà, j'espère que vous aurez quand même de quoi faire de jolis gratins. On vous embrasse, Joël. Gertrude est à Arzon, sur la presqu'île de Ruiz. Bonjour.
Bonjour.
Gertrude, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, j'ai planté au printemps de l'année dernière 2 pieds de coquerie du Pérou. C'était pas la première fois, et à la fin de la saison, en général, elle disparaissait, elle gelait, ça se devenait tout rabougri. Et là, cet hiver, comme il n'a pas gelé, bien, mes pieds sont très en forme, et ils m'ont donné des délicieuses petites baies tout l'hiver. Je voulais savoir si je pouvais espérer que ça produise une deuxième année, s'il fallait rabattre les pieds, ou si il fallait pas trop compter sur une deuxième année de production.
Bon, alors, le coqueret du Pérou, j'ai l'impression que c'est un peu le genre des filles, Physalis, c'est ça?
Physalis peribuana.
C'est ça, hein?
Oui, ça, donc, c'est le nom.
C'est le nom latin. C'est
voilà, voilà, le vrai nom.
Il faut pas dire nom scientifique. Vrai, c'est, voilà, c'est le seul vrai nom.
Hein, le vrai.
Voilà.
Le vrai.
Le coqueret du Pérou, dans son pays d'origine, il est vivace. Donc effectivement, quand on le plante en serre, eh bien, il revient d'un an sur l'autre. Et puis quand il y a des hivers sans froid, eh bien, il passe l'hiver sans trop de problèmes. Et il redémarre au printemps. Et effectivement, vous avez raison, il faut le tailler, il faut le rabattre. Bien sérieusement, hein, quasiment au ras du sol. Par contre, en faisant bien attention à ce qu'il ne ramasse pas de gelée tardive, hein, donc en le protégeant, on lui met une petite capuche avec ce que vous voulez, de la paille, du voile de forçage, voilà. Et de manière à vraiment ne le dégager qu'à partir de fin avril, début mai, hein, quand vraiment il n'y a plus de risque. Faire attention aux fameux sans glace, hein, ils sont toujours aussi méchants, ouais. même avec le réchauffement climatique, j'ai remarqué que des fois ils étaient même plus méchants. Bref, et puis bah, il va vous donner l'avantage, c'est qu'étant déjà en terre, il va fleurir beaucoup plus tôt, parce que souvent ils ont tendance à fleurir tard, parce qu'on les plante au mois de mai, donc ils fleurissent que fin août, et puis les premiers fruits, on les a qu'au mois d'octobre. Alors que là, dans la mesure où il est déjà prêt, les racines sont déjà installées, eh bien il redémarre beaucoup plus rapidement, et les premières floraisons arrivent souvent dès le début juin, donc ça vous permet d'avoir une production vraiment beaucoup plus longue, et donc beaucoup plus de petites baies à goût un petit peu d'ananas acidulé. Et puis, ben, à chaque fois que l'hiver sera doux, ou si vous le protégez bien, eh ben, il va pouvoir durer comme ça, 2-3 ans. Et pour ceux qui ont une serre, c'est un peu comme la Christophine. Au bout de 2-3 ans, on commence à en avoir ras-le-bol. On a envie de le faire sortir de là parce qu'il prend toute la place.
Bon, mais en tout cas, voilà la solution et l'explication. Merci en tout cas, Gertrude. Bonne journée à Arzon. Florence à Saint-Jouan-de-Lille. Bonjour, Florence.
Oui, bonjour Philippe et Daniel.
Oui, alors voilà,
j'ai entendu une petite auditrice tout à l'heure qui parlait des kiwis, et bon, j'ai noté tout ce que Philippe a dit.
C'est bien.
Et j'aurais voulu savoir à quelle saison on pouvait les tailler.
Ah oui, parce qu'on dit taille tôt, taille tard, rien ne vaut taille de mars, donc est-ce que...
Là, les kiwis...
Ouais, alors est-ce que c'est la période?
Eh ben non. C'est passé. Les kiwis, c'est comme la vigne ou la glycine, ça se taille entre le 15 janvier et le 15 février. Et même cette année, au 15 février, bah, il faisait tellement chaud qu'ils étaient déjà en sève. Donc, moi, j'en ai taillé un, je sais plus, vers le 10 février. Il a pleuré pendant 3 jours, malgré que tous les matins, je mettais un petit peu d'argile pour bloquer. Ça diminuait, mais ça n'arrêtait pas, quoi.
D'accord, voilà, mais donc bon, entre le 15 janvier et le 15 février.
Voilà, plutôt vers le 15 janvier, hein, avec le dérèglement climatique, tenter le coup plutôt vers le 15 janvier.
Voilà, d'accord, pour la prochaine fois. Mais vous avez bien fait de poser la question, en tout cas, Florence, avant de faire des
merci
bêtises.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Bon dimanche,
on repart en musique, et puis tout à l'heure, on accueillera Irène, Paul, Régine, Gilles, enfin tout le monde, quoi, voilà. Et notamment Bronski Beat, qui pose pas de questions à Philippe Munier, mais qui va chanter Small Town Boy. Il est 9h43, on vous souhaite bien sûr de passer un très beau dimanche avec nous sur France Bleu Armorique. avec Bronski Beat sur France Bleu Armorix, Small Town Boy.
Allez, cours, terrasse, avec Daniel Moquet. Vos aménagements extérieurs s'adaptent à vos envies. Rendez-vous aux portes ouvertes Daniel Moquet les samedis 23 et dimanche 24 mars. Liste de nos lieux d'exposition sur daniel-moquet.com. Daniel Moquet signe vos allées.
C'est la quinzaine du camping-car.
On en profite tellement de notre camping-car que j'aimerais bien en acheter un nouveau, encore mieux équipé.
Ah oui, c'est vrai que notre camping-car, il nous a vraiment changé la vie.
Tu te souviens de la galère avant d'en avoir un?
Et maintenant, on part quand on veut, où on veut, sans réservation.
Et plus souvent, du coup.
Ah oui.
Jusqu'au 30 mars, c'est la quinzaine du camping-car chez votre concessionnaire. Vous êtes sûr d'y trouver le camping-car qui vous convient, neuf ou d'occasion, à des conditions spéciales quinzaine. Liste des distributeurs participants sur quinzainecampingcar.com.
France Bleu, Armorique. France Bleu. Jusqu'à 10h, Philippe Munier, notre expert jardin, répond à vos questions.
Au 02 99 67 35 35, sachez que Jardin Bleu, vous pouvez réécouter en podcast sur le site francebleu.fr si vous voulez revenir peut-être sur un détail, une question que vous n'avez pas tout entendu. C'est possible, vous faites ça tranquillement dans la semaine quand bon vous semble. Irène est à Saint-Avé. Bonjour Irène.
Oui, bonjour tous les deux. Bonne journée.
Ben vous aussi Irène. Alors, on vous accueille. Pourquoi donc?
Oui, j'aimerais avoir des renseignements sur le Corophytum que j'ai entendu dans l'hiver, une personne qui avait demandé, et j'aimerais savoir où la trouver, s'il vous plaît.
La plante, alors Coro ou Chlorophytum?
C'est Chloro.
Ou
chloro.
C'est moi qui ai mal marqué, oui, j'ai gardé le papier.
Non, mais c'est bien, hein. C'est pas facile.
Il manque juste un petit L, quoi.
Le L, voilà.
Voilà, C-H-L-O-R-O-P-H-Y-T-U-M, Chlorophytum.
Alors, il me manque le L.
De L, c'est
chloro, H-L. Chloro comme voilà. Chloroforme, voilà.
D'accord, c'est ça. D'accord.
Mais ça m'a fait moins dormir.
C'est clair.
Donc, alors, le Chlorophytum, c'est effectivement une jolie petite plante, hein, souvent panachée. En général, celui qu'on trouve, il est panaché. C'est ce qu'on appelle aussi la plante araignée, parce que c'est un petit peu une structure. Voilà.
Savoir où la trouver, j'aimerais en avoir.
Normalement, chez n'importe quel marchand de plantes d'intérieur, donc que ça soit en jardinerie, que ça soit chez un bouquet d'une, comment ça s'appelle, un fleuriste, ça y est, j'ai réussi à le dire.
Ouais, oui, voilà. Des fois, c'est comme ça.
Et des fois, c'est tout bêtement comme ça. Voilà. Et donc, il y en a en général partout, parce que c'est vraiment une plante qui est robuste, qui résiste à peu près tout. On peut même la mettre à l'extérieur. Hein. Bon, pas l'hiver, quand même, faut pas exagérer, mais par contre, pendant toute la saison, on va dire chaude, entre le 15 janvier et le 15 octobre, elle se reste dehors sans aucun problème. Ça fait même des massifs assez sympathiques. Donc, allez-y, usez et abuser, c'est une très bonne plante.
Facile d'entretien en plus, ouais.
Ah oui, c'est vraiment, à part les pucerons de temps en temps, elle peut être attaquée, et dans ce cas-là, on fait un bon lavage avec de l'eau savonneuse, et puis c'est tout.
Même une pancarte interdite aux pucerons, ça marche pas.
La pancarte, on peut essayer.
Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bon, merci en tout cas Irène. Chlorophytum, voilà. Paul est à Saint-Jouan-des-Guérets, bonjour. Alors, vous avez des pommiers avec des pommes. Il y a des choses que vous n'aimez pas dans les pommes, c'est ça?
C'est-à-dire, j'ai un pommier. Ouais. Ce sont des rainettes golden. Mm-hmm. Qui tous les ans, l'année dernière, bon, j'ai pu en manger quand même, mais tous les ans, attrape un ver.
Ouais.
Hein, et donc, c'est dommage parce que j'en perds des fois une bonne partie, quoi.
Bah oui. Que faudrait-il faire?
Est-ce qu'il y a question des solutions? La question, c'est de savoir si c'est le pommier qui attrape le ver ou si c'est le ver qui attrape le pommier.
Oui.
Ah ouais, déjà, là, c'est la première question. Alors, le ver en question, c'est une chenille. Donc, si c'est une chenille, c'est que la maman, c'est un papillon. Avec un papillon avec un nom imprononçable, bon. Carpocaps, voilà, de la pomme et de la poire et de la noix, parce qu'il attaque les trois.
Oui, la poire aussi, oui, ça l'attrape.
Voilà. Voilà, pomme, poire et noix. Donc vous voyez, il y a le choix. Donc c'est un papillon. Première chose, il vole à la même heure que les chauves-souris. Donc si on a des chauves-souris dans son jardin ou si on attire les chauves-souris dans son jardin avec des nichoirs à chauves-souris, eh bien au moment où les mamans Carpocap sortent de leur sommeil pour aller convoler en juste noces ou pas d'ailleurs, elles sont mangées par les chauves-souris. Première chose. Deuxième chose, quand elles ont quand même réussi à convoler et s'arrêtent pour pondre, elles pondent non pas directement sur une pomme, mais elles pondent en général sur une branche. Et après, la petite chenille, elle va naître et elle se dépêche d'essayer de trouver un fruit pour s'installer. Dans ce laps de temps entre l'endroit où elle était pondue et le fruit, il y a une distance qui fait que le temps qu'elle parcourt la distance, elle est toute petite à ce moment-là, eh bien, elle peut être mangée par un chasseur de chenilles invétéré, si je peux dire, qui est la mésange. Qu'elle soit bleue, qu'elle soit charbonnière, ou qu'elle soit à longue queue, c'est des mangeurs de chenilles. Donc, si on a des nichoirs à mésanges dans son jardin, eh bien, on a une protection supplémentaire. Et puis, lorsque la petite chenille s'est développée dans la pomme, dans la poire ou dans la noix et qu'elle est suffisamment nourrie pour devenir un nouveau papillon, elle se laisse tomber sur le sol et elle rentre dans le sol à 2-3 cm pour faire sa chrysalide. Et à ce moment-là, pendant l'hiver, si on a des poules à la maison, eh bien, on laisse les poules se balader au pied du pommier, du poirier ou du noyer, ou les trois réunies, et elles vont faire le nettoyage, le ménage. Et comme ça, ben, on n'a plus de problème avec les vilains Carpocaps. Ils sont nettoyés par la lutte biologique telle qu'elle existe depuis... 200 millions d'années.
Voilà, comme quoi la nature est bien faite, sauf qu'on l'a un petit peu maltraitée, on a utilisé tellement de produits que les mésanges et autres chauves-souris sont partis des jardins, c'est pour ça qu'après on a dit, il faut remettre des produits et c'était l'escalade. Revenons aux choses simples, merci Philippe pour ces bons conseils. Régine est à Mignac-Morvan, bonjour.
Bonjour.
Alors, rhododendron, pas facile à écrire ça. Hein.
Avec le H juste après le R.
Le H juste après le R. Je dis ça à notre Angélique qui, vous savez, s'arrache les cheveux dans l'émission. Elle se dit comment je vais orthographier tout ça. Mais l'essentiel, c'est qu'on vous comprenne et en tout cas, que vous puissiez poser la question, Régine.
Voilà, j'ai un rhododendron et il a des taches grisâtres sur les feuilles. Et il y en a un peu partout. Donc je vais savoir si c'était une bactérie, a priori, ou un champignon.
Alors c'est sur les feuilles ou sous les feuilles?
Dessus. J'ai envoyé des photos tout à l'heure, juste à l'instant.
Ah. Oui, mais il ne peut pas parler, écouter, regarder. Mais c'est bien de l'avoir fait, en tout cas.
Oh là, ça y est, j'ai les photos.
C'est vrai,
j'ai dit
oh là. Direct live.
J'ai dit oh là.
Et à côté, j'ai un Viburnum tinus qui a la bactérie, là, l'espèce de petite tache qui fait tomber les feuilles aussi.
Ouais, mais justement, ça, c'est pas des bactéries en fait. Hein. C'est une suite de bestioles. Donc, il y a d'abord piqûres, donc sur le pyris et sur les viburnums. Quand on tourne la feuille, on voit plein de petits points noirs qui, en général, sont des piqûres. Donc, il y a piqûres. Derrière, il y a champignons et c'est le champignon qui finit le boulot. Mais le premier, c'est l'insecte qui a piqué. En ce qui concerne ce rhodo, je me demande si c'est pas exclusivement les champignons qui sont renvoyés par le viburnum d'à côté, mais c'est du champignon. Pour moi, c'est pas de la bactérie. Hein, donc là-dessus, je pense que ce qu'il faudrait, c'est. J'aime pas la bouillie bordelaise, je l'aime de moins en moins, mais ça peut être une solution à court terme. Mais sinon, utiliser les huiles essentielles fongicides telles que la sarriette, le laurier noble ou le troisième que je cite régulièrement. L'origan compact. Donc les trois en mélange, c'est très très bien. Mais sinon, la sarriette, elle toute seule, elle a un spectre très très large et elle peut fonctionner sur ce genre de choses. Donc je rappelle, la dose, c'est 1 ml par litre, hein, c'est pas plus. Donc on met 1 ml d'huile essentielle, 1 ml d'huile de table lambda, une goutte ou deux de produits vaisselle. On brasse tout ça pour faire que ça fait une petite pâte un peu grisâtre et on va le mélanger dans 1 litre d'eau et on pulvérise. Sous les feuilles d'abord et dessus après.
Et ben voilà. Donc
et comment je veux dire, je peux pas utiliser la décoction de prêle.
Alors, la décoction de prêle, je pense qu'elle aurait été très bien en prévention. En curatif sur ce genre d'attaque, j'ai un doute.
Ouais. Donc l'huile essentielle est à privilégier. Les huiles.
Bah, elle est plus forte et là c'est quand même une attaque assez importante. Donc je pense qu'il faut intervenir vite et bien.
Voilà, Régine, bon dimanche.
Bon dimanche.
Et on termine très vite avec Gilles qui est à la Gouenière. Bonjour Gilles.
Allô.
Oui, vous êtes avec nous en direct.
Oui, oui, bonjour. Bonjour, parce que la semaine dernière, je suis déjà intervenu.
Oh, vous êtes un chanceux, vous, alors. Très vite, la question,
oui,
très vite.
Alors, j'avais gratté ma pelouse et j'avais ramassé beaucoup de mousse. Et je voudrais savoir si je peux mettre cette mousse dans mon composteur. J'avais peur que ça acidifie le compost. Alors, réponse.
réponse, oui, sans aucun problème. Voilà. Oui, ça fait des super composts, la mousse.
Eh ben voilà, donc.
D'accord.
J'ai bien fait de rappeler. Merci beaucoup, Gilles. Bon dimanche. Ça, c'est bien. Une question, une réponse précise. Eh ben voilà, c'est déjà l'heure de se dire au revoir et puis aussi de flâner dans les jardins, d'aller voir et puis de planter. Il y a des petits conseils.
Alors, je vous rappelle que c'est la 14e semaine sans pesticides, hein, pour les alternatives aux pesticides. Donc, il y a forcément dans votre région, pas loin de chez vous, parce qu'il y a plus de. Je crois que c'est 500 manifestations en Bretagne pendant ces 10 jours, donc forcément à côté de chez vous il se passe quelque chose, donc prenez votre journal, allez à la mairie ou à la siège de la com, hein, que ce soit l'agglo, la métropole, la com, et là vous avez forcément le programme d'animation, de conférences, de spectacles, de films, d'ateliers qu'il y a pour vous apprendre justement toutes ces alternatives qu'il y a aux vilains produits qui tuent tout. Il y a plein de produits qui aident à vivre et c'est quand même vachement mieux que d'aider à mourir.
Bah exactement, que... voilà. quand même. Et ben voilà, donc ma vie sans pesticides, ça c'est bien, en vallée de la Rance, en Côte d'Émeraude, il y a des conférences notamment, voilà. Enfin bon, c'est vrai qu'il suffit de taper aussi sur Internet semaine donc pour les alternatives sans pesticides et puis vous allez trouver le site Internet qui va bien. À dimanche prochain, Philippe.
Avec grand plaisir, Daniel.
Au revoir.
France Bleu. Mémoire, attention, concentration, sommeil. Que révèlent les sciences du cerveau aujourd'hui? France Inter et la Massif vous proposent un cycle de conférences autour du cerveau, animé par Mathieu Vidard et Lionel Nakache.
Prochain rendez-vous le jeudi 18 avril à 20h pour découvrir les mystères.